Qu'est-ce que l'hypnose ? Voici une question qui anime chercheurs, auteurs, praticiens et médecins depuis plus de 200 ans. Voilà une des questions qui a été le point de départ de mon voyage. Un voyage qui m'a fait pousser la porte d'un laboratoire de psychologie pour faire une thèse doctorale sur l'hypnose. Et ce sont les découvertes faites au cours de ce voyage que je vais vous conter. Je m'appelle Alain Parra, je suis docteur en psychologie et thérapeute, et ceci est mon podcast. Laissez-moi vous conter l'hypnose. Laissez-moi vous conter l'hypnose. Épisode 1. L'hypnose, son histoire et ses quatre grandes oppositions. Au cours de ce podcast, nous allons voir ensemble comment l'hypnose s'est forgée, quelle a été son histoire. Par contre, nous n'allons pas voir l'histoire de l'hypnose de manière complètement détaillée. Vous trouverez, si cela vous intéresse, en commentaire des tas de références pour justement aller lire et vous renseigner sur l'histoire de l'hypnose. Ce qui va nous intéresser ici dans ce podcast aujourd'hui, ce sont des points clés de son histoire. Et pour moi, dans ma vision, les points clés, ce sont ses oppositions. Vous allez voir qu'en fait, il n'en existe quatre. Quatre qui ont déterminé, qui ont forgé ce qu'était l'hypnose. Ces quatre grandes oppositions sont le fluide magnétique contre la médecine de l'imagination, l'hôpital de Nancy contre l'hôpital de la Salpêtrière, le courant étatiste contre le courant non étatiste en psychologie expérimentale, et enfin, l'hypnose directe contre l'hypnose indirecte. Quatre grandes oppositions que je vais vous conter, en vous contant l'histoire de l'hypnose. Vous êtes prêts ? Embarquez, le voyage commence. Comme nous allons le voir, l'histoire de l'hypnose est fascinante. Non seulement parce qu'elle est intimement liée avec la naissance de la psychothérapie, dans la forme que nous connaissons actuellement, mais surtout parce qu'elle contient en elle tous les prismes nécessaires à la compréhension de l'hypnose et de sa pratique. Bien que cette histoire soit passionnante, nous ne rentrerons pas dans tous les détails car ce n'est pas le sujet de ce podcast. Je vous ai mis des tas de références où vous pouvez aller consulter pour véritablement avoir plus d'informations sur son histoire. Nous allons nous concentrer uniquement sur les points qui nous ont semblé clés pour notre compréhension de l'hypnose, les quatre grandes oppositions entre les acteurs qui ont forgé l'hypnose. Si on remonte très loin dans l'histoire, on trouve des traces de l'hypnose dans la Grèce antique, dans la Rome antique, même en Égypte. Hein. Mais ce qu'on appelle l'hypnose, en tout cas la manière dont on la conçoit, dont on la pratique, date de la fin du XVIIIe siècle. Alors pour la petite histoire, on attribue très souvent la création du mot « hypnose » à James Braid, dont on parlera tout à l'heure. James Braid, qui était un chirurgien écossais, a été le premier à utiliser l'hypnose pour ses fonctions analgésiques et anesthésiques, pour opérer ses patients. Il y a des histoires, vous trouverez des écrits sur James Braid qui a enlevé des tumeurs, etc., grâce à l'hypnose, grâce aux inductions hypnotiques. Mais donc bref, je reviens sur James Braid. On dit souvent que c'est James Braid qui a créé le mot hypnose et hypnotisme. Alors, oui, il a créé le mot hypnose et hypnotisme, mais le premier qui a employé le préfixe hypno, c'est le baron Hénin de Cuvilliers, qui est à peu près de la même période historique que James Braid, et c'est dans son livre à lui qu'on trouve les premières traces de ce mot-là. Donc c'est à lui qu'on doit la paternité du lien entre sommeil et état hypnotique. Mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard. L'histoire de l'hypnose moderne commence avec un homme, Franz Anton Mesmer. Alors, rien à voir avec le Mesmer actuel, hein, le fascinateur. Lui, il y a deux S dans son nom, il a juste repris ce nom-là, ce nom mythique, pour se faire passer pour un fascinateur. Mais Franz Anton Mesmer, lui, était un médecin allemand, dans, encore une fois, milieu 18e, fin 18e. Et il a pratiqué, et c'est lui qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le mesmérisme. C'était une sorte, une forme de magnétisme, et... À la fin du 18e, il a émigré à Paris, sur Paris, et il a commencé à être très reconnu et il a soigné toute la bourgeoisie parisienne grâce au magnétisme. D'ailleurs, à un moment, la demande a été telle qu'il ne pouvait plus faire des séances individuelles, et c'est là qu'il a créé, vous savez, les fameux baquets de Mesmer. En fait, c'était quoi ? C'était des espèces de grandes baignoires en fonte dans laquelle il mettait de l'eau et de la limaille de fer. Il faisait sortir des tiges en métal. Chaque personne se tenait aux tiges en métal. Et lui, en fait, il magnétisait l'eau et le baquet. Et ça faisait en retour ça faisait du magnétisme sur chacune des personnes qui étaient sur ce baquet. Et Mesmer a eu un tel succès que ça a commencé à déranger l'Académie de médecine. Et ces derniers, dérangés par ce succès-là, par ce magnétisme animal qui était à l'encontre de leur pratique, et surtout au vu des résultats qu'il avait, ont commencé à faire un peu du raffut, et ce raffut est remonté aux oreilles du roi de l'époque, Louis XIV. Et Louis XIV, pour trancher une bonne fois pour toutes de la réalité ou non, du charlatanisme ou non de Mesmer, a envoyé une commission qui a été dirigée par Antoine Lavoisier et par Benjamin Franklin. Ils sont allés voir, étudier Mesmer, observer ses processus de guérison. Et cette commission a passé un moment avec lui. Et en 1784, cette commission a jeté le discrédit complet sur Mesmer en disant la chose suivante. Le magnétisme animal n'existait pas, bien qu'on pouvait constater des effets thérapeutiques, bien qu'on pouvait constater des effets sur la santé des gens. Et en fait, ils ont expliqué ces effets, non pas par le magnétisme, par le fluide, mais simplement par une médecine de l'imagination. Alors à l'époque, quand ils parlent de médecine de l'imagination, vous vous doutez bien que c'était quelque chose de très péjoratif. Ce n'est que de l'imagination, donc ça ne sert à rien. Et Mesmer a été discrédité, il est tombé un peu dans l'oubli, et les médecins sont restés avec cette médecine de l'imagination. Et j'en profite d'ailleurs pour ouvrir une parenthèse sur cette notion de médecine de l'imagination, parce que, en fait, ce petit truc-là, là, est tombé dans l'oubli, sauf pour une personne. Un monsieur qui s'appelait Émile Coué, qui était pharmacien de son état, et qui, à l'époque, a été formé par Liébault, par Bernheim, par Charcot, qui est allé se former à l'hypnose. Les noms que je vous ai donnés, on les verra dans la deuxième position. Et ce monsieur, lui, a écrit un livre qui s'appelle « Méthode d'autosuggestion consciente ». Et je vous encourage véritablement à lire ce livre. Vous savez, c'est la fameuse méthode Coué. Alors au passage, hein, les trois quarts des personnes n'ont pas compris ce qu'était la méthode Coué. La méthode Coué, c'est pas juste se regarder dans la glace et se répéter « je vais bien, je vais bien, je vais bien ». Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et pour moi, Émile Coué est l'un des auteurs, même encore à l'heure actuelle en 2020, qui a le mieux compris ce qu'était l'hypnose. Et d'ailleurs, après être formé à l'hypnose, il a très vite rejeté l'hypnose dans sa forme et il a dit les choses suivantes. Il a dit qu'en fait, il n'existait pas d'hypnotisme, il n'y avait que le pouvoir de l'imagination. Et il a dit aussi, et ça on le verra dans un autre des conflits, qu'il n'y a pas de suggestion, il n'y a que de l'autosuggestion. Et en fait, ce qui est génial, si vous vous penchez un peu sur les travaux d'Émile Coué, c'est un livre qui est très facile à trouver, je vous mettrai un lien bibliographique. C'est un petit bouquin qui fait 60-80 pages et qui est vraiment très intéressant parce que vous verrez que ça vous donnera même des clés dans la thérapie. En fait, qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? Avant même de traiter les patients, il leur apprenait à imaginer. C'est-à-dire qu'il faisait un test célèbre, vous savez le test des mains collées où on demande, en principe en hypnose, on suggère au sujet que les mains sont collées, tellement collées qu'il ne peut pas les décoller. Et bien en fait, Émile Coué, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il faisait pas de suggestions. Il demandait aux gens d'imaginer que les mains étaient collées. Et il leur demandait de s'entraîner à ça. Et il ne commençait à traiter les gens que quand les personnes arrivaient à imaginer que leurs mains étaient collées. Dit autrement, il ne traitait les gens que quand ils arrivaient à ressentir, que quand ils étaient capables, grâce à leur imagination, de créer des sensations dans leur corps. Quand ils étaient capables d'utiliser leur imagination, justement, pour produire des effets hypnotiques. Et quand ils étaient capables de maîtriser leur imagination, c'est à ce moment-là qu'il leur donnait le fameux texte à lire tous les jours dans la glace. Mais c'était pas juste de le lire, c'était de le lire en l'imaginant comme vrai, en le ressentant, en faisant en sorte que ce ne soit pas des suggestions, mais des autosuggestions qu'on se faisait à soi-même. Je ferme ma parenthèse sur Émile Coué. Vous le verrez, il va nous accompagner au cours des différents épisodes de nos podcasts. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Donc si j'en reviens à mes oppositions, on voit que notre première opposition est d'un côté le magnétisme et de l'autre côté la médecine de l'imagination. Et Mesmer discrédité, c'est la médecine de l'imagination qui a gagné. Donc suite à l'édition du rapport qui a discrédité Mesmer, James Braid, en 1843, réfute définitivement l'explication fluidique et ça va être le premier à parler d'état physiologique spécifique. Et il va bien entendu créer le mot hypnotisme pour désigner l'ensemble de ces processus et surtout pour bien marquer la séparation avec le magnétisme, avec le fluide animal. Et ça, c'est important. Le mot hypnose, en fait, créé par Braid, a été véritablement créé pour marquer une séparation, pour essayer de le crédibiliser. D'ailleurs, je vais vous donner la première définition de l'hypnose, qui a été justement écrite par Braid en 1843. Braid dit la chose suivante: l'hypnose est un état particulier du système nerveux, déterminé par des manœuvres artificielles ou encore amené par la concentration fixe et abstraite de l'œil mental sur un objet qui n'est pas par lui-même de nature existante. Ce qui est très intéressant dans cette définition, c'est que Braid est le premier à parler, un, d'état physiologique, et deux, de dire que c'est des manœuvres d'une personne extérieure qui vont influencer, qui vont induire cet état chez une autre personne. Et c'est véritablement là que c'est intéressant, parce que c'est le premier à créer une espèce de méthode, une espèce de protocole. En gros, l'hypnose est un état particulier qui va être déclenché par des inductions de l'extérieur. Et vous allez voir que cette première définition-là, en fait, va amener des tonnes de croyances et va engendrer toute la pratique qu'on a aujourd'hui. Et de Braid vont s'en suivre l'âge d'or de l'hypnose et vont nous amener à notre deuxième opposition. L'opposition entre l'école de Nancy et l'hôpital de la Salpêtrière. Et tout va commencer d'un médecin de formation qui s'appelait Liébo, qui va pratiquer l'hypnose. Lui a des vues thérapeutiques, a des vues psychothérapeutiques, mais on n'employait pas encore ce terme-là à l'époque. C'est à ce moment-là que ça a commencé à apparaître, vous le verrez. Et donc Liébo s'est rapproché d'un autre médecin qui s'appelait Bernheim pour le former. Et Bernheim, en fait, dirigeait l'hôpital de Nancy. Et de cette collaboration Liébo-Bernheim va naître l'école de Nancy avec une vision particulière de l'hypnose. C'est les premiers à avoir montré que par simple suggestion, on pouvait induire un état chez une autre personne. Et en fait, cet hôpital de Nancy va s'opposer à un deuxième hôpital, l'hôpital de la Salpêtrière, qui est dirigé par Charcot. Et Charcot, lui, à la base, est neurologue et il a une vision complètement différente de l'hypnose de l'école de Nancy. Pour lui, en fait, l'hypnose est un état pathologique que seules les personnes névrosées, psychotiques, etc. peuvent atteindre. Et pour lui, en fait, ce sont que des processus, que des états qui sont dus à des psychopathologies. Et d'ailleurs, Charcot va s'amuser tout le lundi à faire des grandes conférences où il va inviter des médecins, des spécialistes, etc. Où il va les réunir dans une salle, dans un amphithéâtre, et il va faire des démonstrations d'hypnose sur ses patients à lui. Et ça va être un véritable show, hein. Ça va être quelque chose où beaucoup de personnes vont venir, ça va être un événement récurrent et régulier où ils vont débattre de l'hypnose, où Charcot va pouvoir prouver sa théorie. Et en fait, il s'est juste fait avoir, entre guillemets, parce que ses patients, de manière inconsciente, ben, répondaient simplement à ses attentes. Et en fait, vous le verrez quand on parlera un peu plus loin des courants étatistes et non étatistes. En fait, le jeu social qui a été mis entre eux a fait que ses patients donnaient comme réponse hypnotique simplement ce que Charcot attendait et voulaient simplement plaire à Charcot devant tout ce monde et cette pression sociale. Bref, en tout cas, l'hôpital de Nancy et l'hôpital de la Salpêtrière vont se combattre pendant un moment. Et on a très souvent, on a gardé en tête que cette opposition a été l'opposition principale. Et en fait, cette opposition, on a caché une autre qu'on va voir juste ensemble après. Et en fait, Charcot va être très vite discrédité quand, en 1884, Bernheim sort un livre, publie un livre qui s'appelle « De la suggestion dans l'état hypnotique et dans l'état de veille », où il va populariser des contre-expériences qui vont complètement ruiner les démonstrations de Charcot. Et en fait, l'hôpital, cette opposition Salpêtrière-Nancy ne va plus exister et la Salpêtrière va tomber en désuétude et c'est véritablement l'école de Nancy qui va en ressortir la grande gagnante. Sauf qu'en fait, la véritable opposition, elle arrive maintenant. C'est que de par leurs travaux, à Liébo et à Bernheim, ces deux qui sont à l'origine de l'hôpital de Nancy, de l'école de Nancy, vont commencer à s'opposer. Parce que Liébo, lui, va définir l'hypnose comme un état de sommeil provoqué par simple suggestion, Pour lui, l'hypnose est un état particulier du système nerveux. Et très rapidement, Bernheim va se séparer de ça, va s'opposer à Liébault. Et lors d'un congrès en 1892 à Londres, il va avoir cette phrase choc et qui va véritablement sceller la scission entre les deux hommes, qui est « il n'y a pas d'hypnotisme, il n'y a que de la suggestion ». Et lui va réfuter complètement l'hypnose et il va ne se concentrer que sur la suggestion. Et l'hypnose va tomber en désuétude, va être rejetée, alors non seulement à cause de la scission, mais également pour au moins trois autres raisons. La première, c'est le développement d'anesthésistes chimiques, le chloroforme notamment, qui va permettre de faire des opérations beaucoup plus rapidement qu'avec des inductions hypnotiques. La deuxième, c'est l'hypnose de music hall qui a commencé à véritablement exploser et qui a jeté un discrédit et dont les médecins, les scientifiques de l'époque ont voulu véritablement se retirer de ça et discréditer ce genre de pratique qu'ils apparentaient à de la magie, à de la foire, à du spectacle. Et enfin, la dernière raison, et pas les moindres, c'est l'avènement de la psychanalyse. Et j'aime bien parler de ça très rapidement quand je fais des formations, parce qu'il faut quand même rendre à Freud ce qui lui appartient. Freud, entre 1880 et 90, va quand même, grâce à la psychanalyse, inventer à lui seul tout un domaine de compétences. Freud a inventé la psychiatrie. Alors encore une fois, même si aujourd'hui elle est décriée par plein d'aspects, Freud a quand même formulé des tas d'hypothèses qui sont encore aujourd'hui valides, qui sont encore aujourd'hui influentes, comme certaines notions d'association libre, de jeu de rôle, de transfert, de trauma refoulé, etc., etc. Mais Freud, à lui seul, va quand même créer tout un domaine. Et pour la petite histoire, il fait partie des gens qui ont jeté le discrédit sur l'hypnose, mais pas totalement. En fait, Freud a été formé à l'hypnose, et pas par n'importe qui. Il a été formé et par Charcot, et par Liébault, et par Bernheim. Donc à l'époque, il avait vraiment été formé par ceux qui maîtrisaient le plus cet art. Il a pratiqué lui également pendant très longtemps. Et en fait, très rapidement, il a voulu mettre l'hypnose de côté parce que pour lui, la notion de suggestion n'était pas bonne. Lui, il a vraiment voulu se concentrer sur l'association libre. Mais contrairement à ce qu'on dit, il n'a pas rejeté totalement l'hypnose. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'il aborde la méthode des associations libres, il dit la chose suivante. La méthode exige une certaine préparation du malade. Il faut obtenir de lui à la fois une plus grande attention à ses perceptions psychiques et la suppression de la critique, qui ordinairement passe au crible les idées qui surgissent dans la conscience. Pour qu'il puisse observer et se recueillir, il est bon de le mettre dans une position de repos, les yeux fermés. Et bien entendu, toute personne qui pratique l'hypnose ne pourra que remarquer les liens évidents avec la technique hypnotique. En tout cas, l'hypnose tombe en désuétude aux alentours des années 1900-1920. Il y a même des thérapeutes, il y a même des scientifiques qui vont commencer à essayer de complètement discréditer l'hypnose en disant que ça n'existe absolument pas, en disant que ce n'est que de la simulation de la part des malades, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est en Europe que l'hypnose, en Écosse, en France notamment, et essentiellement en France, que l'hypnose est née, et elle va s'éteindre petit à petit ici pour en fait traverser l'Atlantique et réapparaître en Amérique du Nord avec un monsieur qui s'appelle Clark Hull. Et ce qui est très intéressant avec Clark Hull, qui était un behavioriste à l'époque, il était professeur à l'université de Yale et c'est le premier qui a mis en place un programme majeur de recherche en psychologie expérimentale sur l'hypnose. Et je vous le donne en mille, ses premiers travaux portaient sur l'utilité de l'induction de l'hypnose dans l'efficacité des suggestions hypnotiques. Entre parenthèses, c'est le premier à avoir montré que les inductions hypnotiques n'avaient pas beaucoup d'efficacité ou n'avaient pas beaucoup d'utilité dans l'efficacité des suggestions. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. Et grâce à Clark Hull, C'est tout un domaine qui s'est ouvert. La psychologie expérimentale s'est enfin saisie de l'hypnose. Et on a commencé à enfin avoir des théories explicatives de l'hypnose qui ont commencé à émerger. Et ça va nous amener à notre troisième grande opposition. Mais juste avant ça, j'ouvre encore une parenthèse. Il faut savoir que Clark Hull a été le professeur d'un élève très brillant que vous connaissez tous, qui s'appelait Milton Eland Erickson. Et en fait, Erickson va récupérer les travaux de son professeur et va faire ce qu'est l'hypnose aujourd'hui. Il va tout simplement révolutionner la pratique de l'hypnose et la vision que les chercheurs, les cliniciens et les praticiens en avaient. Il va avoir une influence monstrueuse sur la pratique. Mais ça, on y reviendra dans notre quatrième et dernier point d'opposition. Donc avec Clark Hull, c'est toute la psychologie expérimentale qui se saisit de l'hypnose et avec des tas de courants qui vont apparaître, des définitions qui commencent à voir le jour. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir deux courants qui vont s'opposer, deux courants en fait qui viennent de la droite ligne de l'opposition entre Liebo et Bernheim. Souvenez-vous, Liebo disait que l'hypnose était un état particulier du système nerveux qui était déclenché par suggestion, et Bernheim lui disait qu'en fait l'hypnose n'existait pas, ce n'était que de la suggestion. Et bien ces deux oppositions vont apparaître dans la psychologie expérimentale avec deux grands types de courants qui vont s'affronter d'à peu près 1950 jusqu'à nos jours encore aujourd'hui, bien que les courants commencent à s'unifier. Les deux courants qui apparaissent s'appellent les courants étatistes et les courants non étatistes. Alors les courants étatistes, comme leur nom l'indique, ce sont tous les courants théoriques qui pensent l'hypnose comme un état de conscience à part entière, comme un état altéré de la conscience à part entière. Et bien entendu, les courants non étatistes sont tous les courants de pensée, tous les courants théoriques qui, eux, ne pensent pas à l'hypnose comme un état de conscience à part entière. Pour eux, l'hypnose n'existe pas en tant qu'état à part entière. Pour eux, l'hypnose est simplement un jeu social, et simplement un jeu de rôle avec la notion de complaisance et de suggestion. Dans les podcasts qui vont arriver dans les épisodes prochains, on va véritablement rentrer dans ces différentes théories pour voir un peu les points clés, pour voir les oppositions et ce qu'il va y avoir, ce qu'on va pouvoir retenir. Mais retenez juste ceci, c'est qu'en fait, ces deux courants vont s'opposer et vont déterminer véritablement ce qu'est l'hypnose aujourd'hui et la pratique que nous en avons. En tout cas, de cette opposition, ce qu'il faut retenir, c'est que à partir de ces années-là, la psychologie expérimentale va se saisir de l'hypnose et des grandes expériences avec des grands courants de pensée vont apparaître. Par exemple, dans les années 50, on a eu besoin de mesurer l'hypnose, de mesurer l'hypnotisabilité des gens pour essayer justement de standardiser le protocole. Et c'est là que sont apparues les échelles d'hypnotisabilité, notamment avec Hilgard. Dans les années 60, là, on a commencé à se tourner sur la notion de contrôle hypnotique et la notion de Manchuri Candidate avec l'idée, c'était de comprendre comment, en fait, l'hypnose pouvait contrôler les gens. Et puis, dans les années 70, sont apparues de nouvelles théories, notamment sur la notion d'observateur caché et sur les corrélats de l'hypnotisabilité. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est hypnotisable ou pas? La notion d'observateur caché, c'est les théoriciens de l'époque pensaient qu'en fait, l'observateur caché est en lien direct avec la notion d'inconscient, comme s'il y avait une partie de nous à laquelle on n'avait pas accès et les suggestions allaient à cet observateur caché et c'est lui qui faisait les choses. Dans les années 80, c'est l'hypnose légale qui est apparue avec justement l'avènement des premiers procès où on interrogeait les suspects, mais également les victimes avec l'hypnose. Et derrière, il y a eu tout un grand débat sur la mémoire des témoins et sur l'hypnose sous contrainte, et surtout sur la création de faux souvenirs. C'est pour ça que très rapidement, l'hypnose a arrêté d'être utilisée dans tout ce qui est juridique. Et dans les années 90, on a commencé à travailler sur les notions de mémoire refoulée, etc. Pour, dans les années 2000, arriver à commencer à travailler sur l'effet de l'hypnose sur les processus psychologiques dits robustes, comme l'effet Stroop, etc., etc., où on a essayé d'étudier comment ça se fait que de la simple suggestion hypnotique pouvait arriver à perturber certains phénomènes psychologiques autonomes sur lesquels on n'avait pas de contrôle. En tout cas, ce qui est encore une fois intéressant, c'est que à partir de 1950, vraiment, la recherche, le monde scientifique s'est emparé de l'hypnose pour essayer de la comprendre. Et à partir des années 1950, des tas de théories sont sorties. Dans les prochains podcasts, vous verrez dans l'épisode 2, 3, 2 et 3, je vous en listerai à peu près 17 en essayant de comprendre les points clés qui sont et qu'est-ce qu'on peut en sortir. Mais grâce à ça, on a commencé à avoir une autre vision de l'hypnose, une autre compréhension de l'hypnose. Et c'est ce qui va nous amener à notre dernière opposition, l'opposition entre l'hypnose directe et l'hypnose indirecte. Parmi tous ces chercheurs qui ont récupéré l'hypnose, ou en tout cas qui ont essayé de la comprendre, on l'a dit ensemble tout à l'heure, un monsieur, un docteur, un psychiatre, Milton Erickson, a lui récupéré l'hypnose et l'a complètement transformé dans la vision. Ça a été le premier à utiliser l'hypnose de manière différente, à ne pas faire que des suggestions directes. Il a commencé à mettre au cœur de sa pratique la relation. D'ailleurs, on était en plein dans l'époque de Carl Rogers, avec les approches dites centrées sur la personne. Et pour lui, l'hypnose est avant tout un processus relationnel, un processus qui doit être adaptatif au cadre de référence de la personne. Et ainsi, son expérience clinique et ses recherches vont l'amener à se détacher de l'hypnose telle qu'elle était pratiquée jusqu'alors. Posture autoritaire, directivité, sujection directe, pouvoir placé chez l'hypnotiseur, sont autant de concepts qu'il va déconstruire. Mais attention, il va les déconstruire. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas les utiliser. Je fais encore une parenthèse, ça c'est une grande erreur qu'on transmet dans les écoles ericksoniennes, en tout cas dans certaines écoles ericksoniennes, où on nous fait croire que l'hypnose ericksonienne, c'est l'hypnose d'Erickson. C'est-à-dire que c'est une hypnose dans laquelle on n'utilise que des suggestions directes, que des postures basses, que des suggestions permissives, comme le faisait Erickson. Ce qui est totalement faux. Si vous vous amusez à lire les papiers d'Erickson, si vous vous amusez à observer les vidéos où Erickson pratiquait, il y a plein de moments où il était directif, où quand c'était nécessaire, il savait prendre une posture haute, où il pouvait être provocateur, où il était capable de pousser la personne, de récupérer de la directivité, de l'autorité, etc. En fait, ce qu'a amené Erickson, plus que la notion d'indirect, de permissivité, etc., ce qu'Erickson a mené, c'est de l'adaptation. Ce qu'il a amené, c'est de l'individualisation au cadre de réalité de la personne. Et pour moi, c'est ça qu'il faut véritablement garder en tête. En fait, ce qui était au centre de sa thérapie et de sa manière de pratiquer, c'était la relation patient-thérapeute. Gagner la confiance de son patient, le connaître pour rentrer dans son répertoire, pour mettre en sécurité cette relation, pour mettre en sécurité cette personne, pour justement permettre à ce dernier d'accéder au vécu hypnotique. Et en le modélisant, tous les gens qui l'ont observé, qui ont été admiratifs de sa manière de pratiquer, parce qu'il est vraiment, il fait partie des pionniers des nouvelles formes de thérapie, des thérapies brèves. Il était à l'époque en plus vraiment dans ce bastion de Palo Alto, etc., où des tonnes de thérapies sont apparues. Après lui, les gens qui l'ont observé ont vraiment observé son langage paraverbal et non-verbal, ses suggestions indirectes, ses suggestions permissives, cette position basse, son utilisation même de la confusion et des suggestions qui favorisent la dissociation. Et en fait, ils ont retenu que ça. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de surtout pas oublier qu'il savait être, encore une fois, autoritaire, qu'il savait être directif. En fait, et je le redirai encore une fois, Erickson privilégier la relation, privilégier l'adaptation. Et c'est ça qui est véritablement important. Et la deuxième chose que Erickson va apporter, son deuxième apport, c'est surtout que c'est le premier à parler de l'hypnose comme un état naturel que nous avons tous expérimenté. Et il balaye les concepts d'hypnotisabilité, de résistance à l'hypnose. Et ça, encore une fois, c'est fondamental. Pour lui, donc, l'hypnose est quelque chose de naturel. Et pour la petite histoire, encore une fois, pour prendre de la distance avec ce que beaucoup d'écoles dites ericksoniennes enseignent, Erickson n'employait absolument pas de protocole ni de script. À aucun moment, il créait ses séances à l'avance et il n'était pas tourné sur une symptomatologie, il était tourné sur une relation. C'était un thérapeute qui s'adaptait en temps réel à tout ce qui se passait. Il mettait au cœur de sa thérapie la relation à l'autre. Et c'est grâce à ça qu'il arrivait à amener les gens à leurs propres ressources, à leur propre guérison et à leur propre sortie des postures figées dans lesquelles ils étaient. Sa pratique était vraiment une pratique basée sur l'écoute et il prenait une approche adaptative et intégrative. Et encore une fois, il savait utiliser à la perfection les formes de suggestion directe, indirecte, permissive, directive, les positions hautes, les positions basses. Il allait là où il avait besoin. Nous arrivons à la fin de notre podcast. Mais juste avant de conclure et de terminer, vous avez vu que l'histoire de l'hypnose est faite de ces oppositions. L'opposition entre le fluide animal et la médecine de l'imagination, l'opposition entre l'hôpital de Nancy et l'hôpital de la Salpêtrière, l'opposition entre la vision de l'hypnose comme un état du système nerveux et la vision de l'hypnose comme une simple réaction à la suggestion, les courants étatistes contre les courants non étatistes, l'hypnose directe contre l'hypnose indirecte. Et maintenant, vous commencez à prendre conscience qu'en fait, l'hypnose, elle a été créée dans ces oppositions. Et moi, je vais vous proposer une autre vision juste en vous posant une question. Et si, au lieu de mettre du « ou », on mettait du « et » dans ces approches? Dit autrement, et si on arrêtait de mettre de l'opposition? Et si on mettait du lien, au contraire, dans tous ces courants? C'est ce que je vais vous proposer au cours de ce voyage, car vous allez voir qu'en fait, dans chacune de ces oppositions, chacun de ces auteurs, de ces chercheurs, de ces médecins qui s'opposaient les uns aux autres, qui prônaient leur propre vision, en fait, chacun avait une part de la vérité. Et ce qui va être intéressant, c'est de ne pas mettre en opposition toutes ces vérités, mais au contraire d'essayer de les lier. C'est ce que je vais proposer dans les épisodes qui vont venir. Notre voyage s'arrête donc ici pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de l'avoir fait avec moi. Merci de m'avoir donné un peu d'attention et surtout votre écoute. Encore une fois, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à échanger avec moi. Visitez également les sites internet alainparra.com et incarno.org, mais également mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous y trouverez d'autres informations ainsi que tous les renseignements sur nos formations, sur la thérapie incarnée et sur nos séminaires. Dans notre prochain épisode, l'épisode 2, je vous emmènerai à la découverte des courants étatistes, les courants de la psychologie expérimentale qui prônent l'hypnose comme un état de conscience à part entière, qui pourrait s'apparenter à, pas forcément une forme de sommeil, mais en tout cas une forme de veille paradoxale qui serait un état déterminant de la conscience. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté. Je m'appelle Alain Parra, je suis thérapeute et docteur en psychologie, et vous venez d'écouter mon podcast « Laissez-moi vous conter l'hypnose, épisode 1. L'hypnose, son histoire et ses quatre grandes oppositions. » Prenez soin de vous et à très vite.